Chalim était compté. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Eh bien, nous voilà maintenant à une période charnière, évidemment, de notre histoire nationale, 1789. Ne nous y trompons pas, il ne savait pas que c'était 1789 en dehors de la date, il ne savait pas que la Révolution, évidemment, allait éclater sous les formes successives que nous connaissons. Alors, que savait-on de ce qui se passait à Paris? Parce que finalement, ça se passe à Paris et à Versailles. Que se passait-il dans les campagnes à ce moment-là? Bon, je serais tenté de dire rien. Si vous n'aviez pas la chance d'être sur un grand axe de communication, hein, la grande route royale qui passait par Nanteuil, hein, l'ancienne, la nationale 2 actuelle, pardon, c'était la route Amsterdam-Bruxelles-Paris. Si vous n'aviez pas la chance d'être près donc de ces moyens de communication, d'être près de Paris, il ne se passe rien. Vous savez, quand Rousseau meurt en 1778, eh bien, sur les journaux locaux, il ne s'agit pas de parution de presse, il s'agit de témoignages. On est beaucoup plus préoccupé par la chaleur, par les pluies, par la grêle, par la sécheresse. Les événements au niveau du pouvoir ne sont pas perceptibles. Ce qui gêne, c'est la façon dont on arrache les jeunes pour les envoyer au ce qu'on appelle de nos jours au service militaire. Mais c'est la vie locale qui l'emporte et on sait peu de choses sur les grands événements. Et on sait tellement peu de choses que, finalement, on s'affole de tout. Et alors, bonjour les fake news à l'époque, hein. Je pense à une qui s'appelait La Grande Peur, où on a affolé tout le monde en disant il y a les brigands qui vont attaquer les champs de blé, qui vont ruiner les granges, etc. Alors les gens vont se réfugier dans les clochers. Enfin bref, il y a un manuscrit que j'avais eu la chance de découvrir il y a quarantaine d'années et qui a été publié à deux reprises. C'est le journal du maître d'école de Silly en Mulcien, Silly le Long, qui nous raconte au jour le jour, lui, ce qu'il perçoit de la vie communale, de la vie régionale, mais c'est un maître d'école, il a une certaine culture. Il s'intéresse évidemment aussi aux événements royaux, hein, aux événements de la capitale et de Versailles. Et puis lui, il est bien placé, parce que s'il n'est pas loin de la route royale que j'évoquais tout à l'heure, donc il voit passer d'un seul coup des régiments. Lui, il les voit passer, donc il se doute qu'il se passe des choses quand même assez curieuses à cette période-là. Bien, je ne reviens pas sur ce manuscrit, quand même un témoignage tout à fait intéressant pour notre histoire régionale. Donc, j'ai peu de choses à dire sur l'abbaye en 1789. Bien sûr, il doit être au courant de quelques événements. Est-ce que la tradition de la réunion dans la salle du chapitre, vous savez qu'à l'époque médiévale, les moines se réunissaient régulièrement dans une salle où on leur donnait les informations, ce qu'il fallait faire dans la journée. On leur disait, un tel est mort à telle abbaye. Il y avait des rouleaux funéraires qui passaient d'une abbaye à l'autre et qui donnaient comme ça des nouvelles. Mais là, on est au Moyen-Âge. Car les moines, n'oubliez pas, les moines cisterciens au Moyen-Âge, du moins au début du Moyen-Âge, n'avaient pas le droit de parler. Si, justement, dans la salle du chapitre. Voilà pourquoi on parle, lorsqu'on prend la parole, d'avoir voix au chapitre. Ça vient de là. Mais pour le reste, je ne sais même pas, moi, si cette règle du silence avait perduré jusqu'à cette période. Permettez-moi d'en douter, ils ont tellement contourné les directives du chapitre général, hein, de cistercien, que je pense que c'est terminé quant à la règle du silence. Bref, peu d'informations nous sont parvenues. Et puis, un jour qui n'était pas fait comme un autre, j'ai eu la chance de retrouver dans un placard bien conservé du village de Fontaine-Chalie, dans une pièce qui était la bibliothèque, des archives. Et des archives de Fontaine, sur lesquelles, à ma grande surprise, on va trouver la description, au jour le jour, des événements, à partir du 3 mai 1790, jusqu'en 1795. Après, on a quelques éléments jusqu'en 1819, mais il n'y a plus cette précision scrupuleuse de noter tous les événements qu'il y avait dans cette première période. Donc, ce document, pour nous, sera évidemment quelque chose d'exceptionnel parce que cette période de la ville de l'abbaye de Chalie ne nous était pas connue. Et ça nous permettra de revenir sur un certain nombre d'affirmations que l'on portait jusqu'à présent, à savoir que l'abbaye était en ruine, ça c'est vrai, mais qu'il n'y avait plus de moines, ou plutôt c'était quelques vieux moines grabataires qui subsistaient. Bah, comme grabataires, ils avaient une quarantaine d'années en moyenne. Ils étaient beaucoup plus nombreux qu'on voulait bien le dire. Donc on est là devant un récit traditionnel qu'il nous faut évidemment écarter au profit de la réalité des choses. La plupart des moines, quand ils vont renoncer à leurs vœux, vont intégrer en général la vie religieuse ou même la vie civile. On va les retrouver agriculteurs ou curés, ou, etc. Et vont, sans difficulté, trouver un nouvel emploi, en quelque sorte, dans la société révolutionnaire. Il y a eu quelques écarts, bien entendu, qu'on aura occasion d'évoquer. Alors, dans un premier temps, la lecture des actes nous fait vivre, donc, ou revivre, je devrais dire, les relations entre les édiles municipaux, qui sont récemment élus, et les religieux encore présents dans leurs maisons conventuelles, et dont les domaines fonciers et immobiliers dépassaient largement ceux du territoire de Fontaine. L'abbaye de Chaly a des propriétés jusqu'à Mortefontaine, vers Mortefontaine. Et comme le patrimoine forestier de Chaly appartient à l'État, mais est sur le territoire de Fontaine-Chaly, Fontaine-Chaly fait partie des plus grandes communes de l'Oise, parce qu'elle a hérité en grande partie, évidemment, de l'abbaye. Donc on voit avec quelle précision les élus s'acquittent de la charge considérable qui est la leur, à la suite du décret du 23 mars 1790, qui leur demande de faire des inventaires réguliers et surtout de mettre en sûreté les biens de la nation. Parce qu'on va le voir, évidemment, les biens de l'Église vont être, comme on dirait de nos jours, nationalisés, devenir biens nationaux. Et ces documents témoignent de leur volonté de remplir au mieux leur rôle de citoyen responsable. Cette garde scrupuleuse se poursuit, en gros, jusqu'à la mise en vente des bâtiments de l'abbaye royale de Chaly, qui a lieu à la fin de l'année 93. Et même si les administrateurs du district de Senlis ont une responsabilité, on peut dire que cette période de fin 93, début 94, qu'on appellera beaucoup plus tard la terreur, n'a pas été quelque chose de favorable à l'abbaye. Ça a été une période véritablement où certains pseudo-révolutionnaires qui ont profité de la révolution, pour le dire autrement, vont tout simplement piller un certain nombre de richesses de l'abbaye et arracher aux citoyens de Fontaine-Chaly ce droit qui leur avait été conféré de faire l'inventaire et surtout de surveiller l'abbaye. Donc on est là dans une description intéressante parce qu'elle va à l'encontre aussi de ce qu'on raconte habituellement. On s'attendait à ce que les paroissiens de Fontaine-Chaly se précipitent avec leurs instruments agraires et viennent piller. Mais non, pas du tout. Au contraire, ils vont faire un tour de garde 24 heures sur 24 pour éviter les voleurs. Et ils vont prendre leur rôle d'une façon extrêmement sérieuse. Et c'est toute cette information que je me propose par la suite d'évoquer. La valeur des biens de l'abbaye est considérable, et je pense surtout à la propriété forestière. Ce document est intéressant parce qu'au-delà des biens matériels, c'est aussi la vie des habitants de l'abbaye qui nous est comptée. Celle des domestiques, des artisans, des garde-bois, des marchands, des meuniers, des fermiers qui vivent dans l'enceinte de l'abbaye, en compagnie des religieux qui y demeurent encore. Petit à petit, ceux-ci vont prêter ou pas serment, mais pour la plupart, ils vont prêter serment à la nation. Autrement dit, ce document, c'est la chronique d'une mort annoncée du domaine spirituel quelques années avant 1794. Ce qui m'a surpris dans ce document, c'est le récit des prévarications. On s'attend que ce soit le peuple qui monte à l'assaut des richesses des biens ecclésiastiques, mais les premiers à avoir tapé dans la caisse, comme on dit vulgairement, eh bien, ce sont en général les nobles de proximité, qu'ils soient d'Hermenonville ou de Baron. Ce qui est quand même là aussi une surprise. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été suivis par la suite. Mais enfin, c'est quand même quelque chose d'assez curieux. Je répète quand même que soucieux des biens de la nation, les représentants de Fontaine le sont aussi par la suite des biens de la municipalité. C'est-à-dire que la méthode qu'ils vont employer pour conserver les biens de l'abbaye, ils vont l'appliquer par la suite à la municipalité, puisque vous savez qu'on va passer de la paroisse à la municipalité. Donc, ils vont gérer leur commune. Le mot commune vient tout simplement des termes communaux, c'est-à-dire ces terrains qu'ils avaient en commun. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'a jamais le temps d'évoquer, mais il faut savoir que ces paroissiens avaient en commun des terres qu'ils géraient ensemble. Et que ces terres, parfois, ont été confisquées par les religieux comme par les seigneurs. Ce ne fut pas le cas à Fontaine-Chaly. Et ils vont donc mettre au point des règlements pour gérer leurs communaux. Et à la suite de la nationalisation des biens du clergé, ils vont refondre complètement le terrier, c'est-à-dire la propriété des terres, le plan cadastral. Ils vont séparer le territoire de la commune en différents quartiers qu'ils vont nommer. Et on a une organisation rationnelle du pouvoir municipal. L'aspect officiel des procès-verbaux inscrits dans les registres ne nous dispense pas d'une recherche critique. C'est-à-dire qu'il faut quand même ne pas croire sur parole, évidemment, ce document. Il faut le confronter à d'autres documents contemporains qui évoquent aussi, dans une même chronologie, des événements révolutionnaires, régionaux ou nationaux. Mais ça, c'est une pratique, évidemment, que se doit de faire toute personne qui s'intéresse à l'histoire, c'est-à-dire de ne pas rester à un simple témoignage et à vérifier, évidemment, les assertions qui sont inscrites dans ce document. Les biens ecclésiastiques vont être mis en vente. Et les premiers renseignements qu'on a, ce sont les ventes qui vont s'effectuer à Chaly entre 1790 et 1793.
Entre 1790 et 1793, cette vente s'est effectuée en plusieurs temps. On peut noter quelques exemples simples. Ferme de Chaly à Fontaine, 1791, 210 200 livres. Ferme de Chaly à Fontaine, 1791, 282 500 livres. Ferme de Chaly à Fontaine, 1791, 197 000 livres. Ferme de Chaly à Fontaine, 1791, 292 000 livres. Ferme de Chaly à Raret, 1792, 256 000 livres. Ferme de Chaly à Raret, 1792, 171 400 livres. Maison conventuelle de Chaly, mise en vente le 28 septembre 1793, achetée le 16 octobre par Romain, la somme de 150 000 livres est revendue le 18 novembre à Pierre-Étienne Joseph Paris.
Bien, merci André. Je reviendrai quand même sur des choses un peu curieuses. Nous avons quatre fermes de Chaly à Fontaine, hein, ce qui a provoqué la surprise aussi en même temps, qui sont vendues pour des sommes considérables. C'est-à-dire que, en réalité, ce sont des granges abbatiales qui sont vendues. Et quand on lit ferme de Chaly à Fontaine, ça peut être la ferme de Fourcheret.
Ah oui.
Ça peut être la ferme de la Bulté, oui. Ça peut être etc., etc. Et maintenant, on s'inscrit dans les municipalités. C'est pour ça que la ferme de Borde, par exemple, eh bien, elle se trouve maintenant dans la commune de Raret, on l'appelle ferme de Raret, etc. Voilà pourquoi on ne retrouve plus les appellations traditionnelles des granges cisterciennes qui sont toujours les mêmes. Et ce qui est surprenant, c'est que le paysage des cisterciens fondé au XIIe, XIIIe siècle, par les cisterciens de Chaly, est encore présent dans le paysage. Quand on se promène en avion, on retrouve ces grandes fermes. Oui. Voleran, je ne veux pas faire toute la liste.
Fourcheret, on ne peut pas le rater.
Etc. Ce sont les grandes fermes qui sont toujours actuellement exploitées. Bien sûr, il y a eu quelques modifications, des locations, des ventes, etc. Mais ça a perduré. Hein. On peut dire que le paysage cistercien, même à travers la Révolution, continue à marquer notre paysage actuel. Alors, vous voyez que la première chose qui intéresse, quand même, c'est la vente des fermes. On ne s'occupe pas du tout des bâtiments de l'abbaye, des chapelles ou je ne sais quoi, hein, ou de l'église. On vend ce qui rapporte, donc, les fermes en 91 et 92. Les sommes sont assez considérables, quand même. Mais, il y a un mais, on va le voir, c'est que petit à petit, la monnaie va se dévaluer. Alors, on a vu aussi, dans la lecture d'André, qu'à la fin de 93, c'est un certain Rometin qui va acheter Chaly. Il y a encore des familles Rometin qui possèdent des fermes, d'ailleurs, de nos jours. Mais en réalité, ce fameux Rometin, c'est un prête-nom. Et c'est finalement Pierre-Étienne-Joseph Paris qui va être le propriétaire officiel, le 18 novembre, des bâtiments. Je parle, donc, on reste dans l'enceinte actuelle de l'abbaye. Hein. On ne parle pas des terres et des bois autour. Petit à petit, on va voir que Pierre-Étienne Joseph Paris va essayer de reconstituer le foncier de l'abbaye en achetant champ par champ, même surface minuscule, pour reconstituer ce territoire. Alors, je disais que ces prix sont donnés en assignats. Mais il faut tenir compte de la dévaluation pour les comparer. Si vous voulez, par exemple, entre 1790 et 1792, la monnaie a perdu environ 40% de sa valeur. Donc, il faut se méfier. On n'est plus à livre constant ou à francs constants, comme on le dira un peu plus tard. Il faut tenir compte de cette dévaluation qui ne fera qu'accélérer. Une des roublardises du marquis du Jardin, que j'ai déjà évoqué à propos de Jean-Jacques Rousseau, c'est évidemment d'avoir pris en quelque sorte le trésor de Thérèse Levasseur, la femme de Jean-Jacques Rousseau, qui était en écu d'or, et de lui rembourser en assignat. C'est-à-dire en monnaie de singe. Oui. On peut dire que là, c'est une roublardise qui n'est pas tout à fait à son honneur. Malgré tout. Même considérant que l'assignat a une valeur vraiment très relative, on peut considérer quand même que les bâtiments abbatiaux ont été vendus à vil prix, compte tenu de la surface, évidemment, de ces constructions. Récemment, j'ai retrouvé un document, je fais une petite parenthèse, que j'avais lu, mais pas assez bien. Mais ça, c'est le problème de la lecture sur écran. J'étais passé trop rapidement. Et en faisant le tri, en les tirant sur papier, je me suis rendu compte que j'étais passé à côté d'un document important, c'est-à-dire les factures qui correspondent à la construction du nouveau moulin de Chaly entre 1806 et 1807 par Pierre-Étienne Paris, celui qui venait d'acheter donc en 93 les bâtiments. Et sur ces factures, j'étais passé à côté, j'ai pu lire un tel, tant d'argent pour la démolition de l'église. Et ce que je cherchais depuis des années et des années, j'avais trouvé en quelque sorte qui avait pris la décision de démolir l'église. Mais on ne la démolit pas comme ça parce que c'était une église, on la démolit parce que c'est un bâtiment dont on peut récupérer les pierres, car suivent ces premières factures, qui sont confirmées par d'autres d'ailleurs, suivent des travaux de taille de pierre, c'est-à-dire qu'on va déconstruire en quelque sorte l'église, tailler la pierre et la réutiliser pour trois choses. Pour le moulin, c'est un magnifique bâtiment, pour le mur de soutènement de l'étang de la pêcherie. Pour ceux qui connaissent un peu Chaly, lorsqu'on prend le sentier des écrivains, vous arrivez directement sur le premier étang qu'on appelle l'étang de la pêcherie, depuis le Moyen-Âge, mais qui n'était pas destiné à retenir de l'eau pour un moulin. Donc on va construire une chaussée, une digue, et on va utiliser énormément de pierres de l'église pour construire cette digue, ce mur, on l'appelle le mur de soutènement de l'étang de la pêcherie. Et puis, troisième utilisation, je ne sais pas si elle est exhaustive, c'est-à-dire qu'il est probable que peut-être d'autres pierres ont été utilisées pour d'autres bâtiments, mais c'est difficile de le savoir parce qu'on fait retailler toutes les pierres. Alors, j'avais toujours espéré qu'on retrouve des marques de maçons sur les anciennes pierres, comme on le faisait très souvent au Moyen-Âge. Mais là, comme on fait resurfacer, retailler, etc., puis beaucoup se trouvent dans le sous-sol, donc il m'est difficile de le dire. En tous les cas, on a là un acte de démolition qui est très, très daté, donc on peut dire que l'église, on a commencé à la démolir à partir de 1806-1807. Ça ne veut pas dire que ça n'avait pas commencé avant, ça ne veut pas dire que ça n'a pas continué après, mais en tous les cas, j'ai mon responsable. Donc c'est Pierre-Étienne Paris, un Nanteuillais. Il habitait Nanteuil. Il est issu d'une famille axonaise, donc du nord de l'Aisne d'ailleurs, bon, petite bourgeoisie, laboureur, etc. Il fait fortune dans des conditions un peu curieuses. C'est un minotier, c'est-à-dire qu'il va faire le commerce de la farine. C'est pas lui qui fait écraser le grain, c'est pas un meunier. Il a déjà la taille au-dessus. C'est un industriel de l'alimentation. On en parle beaucoup en ce moment. Voilà, ça c'était cette parenthèse que je voulais faire. Et c'était aussi là, avec beaucoup d'humilité, que l'on peut trouver un texte. On ne le lit pas assez précisément. Et on passe à côté d'un renseignement derrière lequel on court depuis des décennies. Donc cette maison est achetée quand même à vil prix, on peut le dire. Alors, c'est tout un tas de magouilles, évidemment, financières qui lui permettent d'acquérir, mais ce n'est pas forcément le plus intéressant. Il continue quand même à acheter quelques petites choses qui se vendent par la suite, donc 93, 94, 95. Je pense à une maison du Petit Chaly à Senlis. Ça appartenait à l'abbaye. La maison du Petit Chaly, elle existe encore. Oui. Vous avez la rue du Petit Chaly, d'ailleurs.
Oui.
Elle n'est pas à droite, comme c'est indiqué. C'est une erreur sur la plaque, mais elle est à gauche, un peu plus loin. On a du mal à y retrouver la maison médiévale. En réalité, il n'en achète qu'un tiers. Enfin, les deux tiers seulement, oui. Il complétera son acquisition un peu plus tard. Enfin bref, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas le droit, au moment des biens nationaux, on n'a pas le droit d'acheter en société. C'est-à-dire, on est obligé d'acheter tout l'eau d'un seul coup. Et là, on a une certaine injustice, bien évidemment. Comment voulez-vous qu'un journalier puisse se payer X hectares, enfin, on ne disait pas hectares, on disait arpents, mais ce n'était pas possible. Donc, à Nanteuil, entre autres, ou à Sillé, ils ont essayé de se mettre en société en disant, nous, on va mettre notre argent en commun, et puis après, on divisera ou on exploitera en commun cette terre. Ben non, ça n'a pas fonctionné. Donc, on peut dire que ces rachats de biens nationaux ne pouvaient pas favoriser véritablement le monde populaire. En tous les cas, les plus démunis sont écartés, sans vergogne, évidemment, de cette nouvelle distribution. Alors, la volonté de dissimulation au niveau des finances, elle ne date pas d'hier. Et puis, par la suite, on va aussi vendre les presbytères. Les presbytères qui deviennent aussi un bien commun. Presbytère de Fontaine, par exemple. Les églises appartiennent aux communes. D'ailleurs, de nos jours, certaines communes s'arrachent les cheveux parce qu'elles sont propriétaires réelles des églises et elles se doivent, entre guillemets, si elles le peuvent, d'entretenir ce patrimoine. Donc ça, c'est issu de cette vente des biens nationaux. Alors, la vente des fermes, qui a été effectuée sans division, a surtout profité, je viens de le noter, aux cultivateurs, aux fermiers, aux ceux qu'on appelait laboureurs, qui, pour beaucoup d'entre eux, cultivaient déjà, d'ailleurs, ces anciennes granges. Ils constituaient déjà un groupe de notables, ces gros agriculteurs, comme on dirait de nos jours, qui dirigeaient la fabrique de la paroisse, comme je l'ai dit dans une présente émission. La fabrique, c'est une réunion de personnes dont le rôle est d'entretenir les biens de l'Église, qui appartiennent à l'Église. Les citoyens, donc, peu fortunés, n'accèdent pas, on peut dire, aux propriétés des biens nationaux. Alors, les différents procès-verbaux de la municipalité de Fontaine, dans leur chronologie, nous permettent de saisir l'évolution aussi du vocabulaire. Ne serait-ce que déjà pour Fontaine-les-Cornues. Oui, c'était Fontaine-les-Cornues, Fontaine-Chenis au XXe siècle. Parce que les Cornues, quand même, c'est pas très agréable. En réalité, bon, vous le savez, Fontaine-les-Cornues, ça s'écrivait L-E-S, plus loin, Cornues, C-O-R-N-U. Pourquoi Cornu? Eh bien, c'est le nom des chevaliers seigneurs de Fontaine. Il s'appelait Cornu. Et encore, d'ailleurs, des terres qui nomment ainsi Cornu. Il y a des Cornus qui ont participé à la bataille de Bouvines. Je passe sur les détails. Donc, Fontaine-le-Cornu, ça n'a rien à voir avec ce qui faisait sourire, évidemment, les contemporains. Ça vient tout simplement des cornes de cerf. En histoire de l'art, on ne dit pas les bois, mais les cornes de cerf, qui étaient probablement parmi les armeries de cette famille seigneuriale des Cornus. Et le laisse cornu, Fontaine-les-Cornus, pardon, c'est pas laisse, les Cornus, ça veut dire tout simplement appartenant à Fontaine, appartenant à la famille Cornu. Voilà, ça c'était pour, comme Nanteuil-le-Audouin, Nanteuil-le appartenant à Audouin, Aldo, tout simplement, et Aldo probablement l'abbé de Saint-Denis. Voilà, donc on a parfois les, vous avez Perrois, les Gombris, et là c'est pas du tout la même chose, ça veut dire Perrois à côté d'eux, laisse la tous à côté d'eux, les Gombris, Nanteuil, les mots à côté des mots, Marny, les Compiègne, etc. On retrouve le fameux côté latus, donc latin. Donc ces différents procès-verbaux, pour revenir à notre propos, nous permettent de mieux comprendre aussi l'évolution du vocabulaire et à défaut d'être clairement celui des mentalités, en fonction de l'évolution des événements révolutionnaires nationaux. On utilise indistinctement les termes de cultivateur et de fermier. Curieusement, le premier à avoir employé le mot « citoyen », oui, fut Don Riflard, le prieur de l'abbaye en 1790. Il est aussi le dernier à être cité dans le registre dont le nom est précédé par « sieur ». Il est évident que les mots « frères », « patriotes », « citoyens », « nations » n'ont pas le même sens pour un habitant de la fin du XVIIIe que pour nous. Le terme de « citoyen », il est employé déjà par Don Frérot, hein, donc bien avant la Révolution. Vous voyez, il faut être très prudent quand on essaye d'évoquer ces changements radicaux révolutionnaires. Il faut être prudent et se poser la question « comment les gens ressentent-ils ce terme ?» Donc un citoyen avant la Révolution, ce n'est pas le citoyen d'après la Révolution ou pendant la Révolution. L'acception a changé. Au roi père de la nation, on va trouver ensuite la mère patrie. On passe du père à la mère. Ça n'empêche pas que des thèses anti-monarchiques ou anticléricales, favorables à la noblesse, un retour à la noblesse, continuent à courir les rues. Hein. Fontaine est de la paroisse à la municipalité. Le 4 décembre 1789, revenons donc après cette présentation aux événements, l'Assemblée nationale, je répète, 14 décembre 1789, l'Assemblée nationale met en place les communes, à l'image de celle de Paris, pour remplacer les anciennes paroisses du royaume. L'organisation des communes est identique dans tout le pays. Elle est la suivante. Un conseil général est élu par les seuls citoyens actifs, c'est-à-dire ceux qui paient au moins un impôt égal à 3 journées de travail et qui ont plus de 25 ans et qui habitent la commune depuis plus d'un an. Ça, c'est pour les électeurs. Pour être éligible, il faut être bien sûr électeur et payer l'équivalent de 10 journées de travail. Le conseil général est composé pour un tiers par un conseil municipal et pour 2/3 par des notables. Un procureur est également élu. Son rôle est de représenter et de défendre les intérêts de la commune et des contribuables. Petit à petit, son rôle prend de l'importance et il se fait le relais de l'autorité nationale. Une maison commune, qu'on appelle la mairie, est établie dans chacune des 41 000 communes du royaume pour accueillir toutes les manifestations officielles et les réunions du conseil général. On ne dit pas conseil municipal à l'époque, mais c'est le conseil général de la commune. À partir du 20 septembre 1792, oui, c'est quand même écoulé plus de 2 ans, le registre des naissances, des mariages et des décès est tenu sous la responsabilité du maire. Il remplace celui des baptêmes, mariages et sépultures, placé antérieurement sous la responsabilité du clergé, est souvent tenu par le clerc paroissial. Les prêtres durent alors remettre leur registre au conseil général de la commune. Oui, il y a quand même des mises en place de cette administration que nous connaissons, mais encore une mise en place sélective. On est devant un suffrage censitaire. On ne peut être électeur que si on est fortuné. Hein ? Peut-être pas, évidemment, une énorme fortune, mais il y a une sélection et, disons, le peuple, au sens générique du terme, n'est pas invité véritablement à table, en quelque sorte.
C'était « Si Chalim était compté » avec Jean-Marc Vasseur, attaché culturel et pédagogique de l'Institut de France à Chalis.